Alright, on est là. Bon lundi. Comment ça va? Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne jusqu'à 14h. Dans la première partie, c'est Audrey Pinchot qui est là pour m'accompagner. Puis à chaque matin, toujours un petit stress qu'elle soit pas là en début d'émission.
Franchement.
Mon cœur flanche. À chaque fois.
C'est pas correct.
Là, elle nous écrit là, il y a une mise en portefeuille là, d'un camion là, sur l'autoroute.
Je vous fais la circulation.
Je sais pas s'il me reste assez d'essence, là, mais je connais mon char.
En plus, depuis le retour du temps des fêtes, salut en passant, Yann.
Hi.
Depuis le retour du temps des fêtes, je me suis comme donné le défi personnel de lâcher prise.
OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Je te dirais juste lâcher prise sur ce qui n'est pas nécessaire au quotidien. Je suis une grande anxieuse, puis j'essaie vraiment de travailler là-dessus. Puis quand on a commencé l'open mic, on dirait que je voulais être ici à 7h30 le matin. J'étais très, très stressée. Fallait que tout fonctionne. Fallait que mon horaire soit en ordre. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, Christy, qu'on sauve pas de vie, sérieux, on peut-tu prendre 2 minutes? Je peux travailler de chez nous, relax, arriver plus dernière minute ici, puis ça va être correct. Uh-huh. Mais j'ai comme tendance à oublier les facteurs externes, c'est-à-dire la route, la neige, les tempêtes. Fait que ça fait un bon 2-3 semaines que j'arrive ici, il est comme 9h40, puis là, ben, ça sent dans mon énergie parce que là, je suis comme, hey, merde, il me reste juste 20 minutes. Finalement, ça m'a pris 1h15 la route au lieu de 45 minutes.
Ça se sent dans le ton de ta voix quand tu nous envoies tes messages. Vocaux, tes
autre affaire à travailler.
Mais tu vois, moi, ça a été complètement le contraire. J'étais tanné de passer comme une heure et quart dans le trafic, ce qui fait en sorte que je me lève beaucoup plus tôt. Puis j'arrive à la station maintenant beaucoup plus tôt. Mais
c'est parce que je suis pas née dans le trafic anyway.
T'as vu où je me prépare?
Oui.
Je suis seul, je relaxe, je fais mes affaires, j'ai pas
mais
de stress.
Des fois, je pense à venir te rejoindre, mais j'ai peur de déranger.
Non, non, c'est ça. Le building est assez grand, là.
OK, mais le message est entendu. Parfait. Mais regarde, l'important, c'est que je suis là.
Tu sais que moi, là, les fameux TDAH, là, TDA, ça n'existait pas dans ma génération.
Okay? Ben, ça existait, mais vous n'étiez pas diagnostiqué.
Non, ça n'existait pas. On était juste des petits tannants et des petites tannantes qui n'étaient pas capables de se concentrer. Puis c'est comme ça qu'ils nous traitaient. Puis le nombre de copies que j'ai eues parce que j'avais pas un bon comportement à l'école,
ça veut dire
que j'étais pas attentif. T'avais-tu
des techniques?
J'avais pas de technique.
Moi, j'écrivais un mot sur toutes les lignes. Mettons, je... pendant 100 lignes.
Ah oui, ça, oui.
Tu comprends, dans ma tête, ça allait plus vite.
Ouais. Non, ce que je me disais pour essayer de m'encourager, c'est que je n'étais pas un débile profond, là, parce que les profs nous faisaient sentir des fois, dans les années 80, comme étant des débiles profonds parce qu'on n'écoutait pas. Mais je me rendais compte qu'il y avait certaines matières où j'écoutais beaucoup plus. Tu sais, les maths, là, ou l'anglais, exemple. J'étais hyper motivé par ces matières-là, ce qui faisait en sorte que je ne décrochais pas du prof. Quand le prof est intéressant, exemple, un prof d'histoire, ou un prof là, qui nous parle, tiens, moi j'aime beaucoup l'astronomie, tu sais, pas l'astrologie, l'astronomie. Puis quand un prof pouvait nous faire un cours d'une heure ou deux heures là-dessus, de A jusqu'à Z, je décrochais pas. Mais quand on me donnait un cours qui était plate, fait par un prof plate, puis je jugeais que moi, dans ma petite tête d'enfant de 7, 8, 9, 10 ans, jamais j'aurais besoin de ça plus tard. Exemple, un cours de français.
Ouais.
Ben, j'avais tendance.
Il travaille en radio aujourd'hui.
J'avais tendance à regarder dehors. Qu'est-ce qui se passait dehors? Il y avait un oiseau, il y avait un écureuil. La moindre des choses me distrayait, puis je portais mon attention là-dessus. Fait que nous autres, ça n'existait pas, les TDAH. Puis je le suis probablement à certains niveaux. Je décroche assez facilement quand quelqu'un me parle, puis là, j'ai comme un désintérêt total.
Ah oh, ouais, j'ai jamais remarqué.
Ah oh, vraiment. Mais il y a des choses que, tu sais, tu vois, j'ai réussi à aller chercher ma licence de pilote. Je veux dire, ce qu'un TDAH pourrait pas avoir espoir si il se disait « Hey, si je prends pas mes médicaments. » Fait qu'on rushait peut-être un peu plus que les TDA d'aujourd'hui ou les TDAH qui peuvent être assistés par des médicaments pour les aider.
Mais je pense que le point est là. Je pense qu'avec un TDA, tu peux faire n'importe quoi. C'est juste 3 fois plus difficile que la moyenne. Et il y a une facilité avec la médication. Nous autres, ça roule dans la famille, là. Moi, j'ai un bon petit déficit. Là, heureusement, je fais pas un métier où j'ai besoin d'être ultra concentré en tout temps, là. Juste 5h30 par jour, là.
Tu connaissais-tu le Star Café?
Le Star... Hey, je connais de nom. Oui.
Le Star Café, c'était un café qui, après ça, qui s'est transformé en Star Bar, mais qui a changé de place, là. Mais c'était... De mémoire, c'était sur le chemin Sainte-Foy, juste à côté de Duvallon, à moins que je me trompe, là. Mais c'était en haut du bord de la relève, bref. Puis quand je passais ma licence des pilotes, c'était en 2006, puis le Star Café était toujours ouvert. Puis moi, j'allais étudier, là. Puis, juste pour te dire à quel point, quand tu es passionné par quelque chose, mais que tu as un petit déficit d'attention, tu peux être là-dedans pendant des heures et des heures puis pas te rendre compte de ton environnement. Bien, j'arrivais là le matin, je me prenais comme un hyper de gros café, je me mettais de la musique des oreilles, je me cantais sur mon ordinateur, puis je me levais les yeux des fois, puis le soleil était couché, ça faisait comme 8-9 heures que j'étais là.
Mais t'étais absorbé par ce que t'avais dans tes
livres. Absorbé par ça, tu sais. Fait que, c'était dans... Mais là, il était pas dans la pyramide, moi, quand j'allais là, Steve, t'es en train de m'écrire, là. Mais ça, c'est le Star Bar qui était dans la pyramide. Mm. Moi, c'était le Star Café qui était sur le chemin Sainte-Foy de mémoire, puis j'allais étudier là. Fait que les TDA, TDH, en 1980, ça n'existait pas.
Oui, bien, tu vois, souvent, on a jasé avec ma mère parce que clairement, ma mère, tu la rencontrerais puis tu aurais une discussion avec elle, tu réaliserais qu'elle a un petit déficit d'attention aussi. Mais je veux dire, elle n'avait pas de diagnostic parce que justement, ça n'existait pas. Puis elle a juste bûché trois fois plus. Tu sais, ma mère est historienne de formation. Elle a été. Voyons, ils font des recherches dans l'eau, Yann, lundi matin, hein? Ils font des recherches dans l'eau. Oui, j'aimerais ça que tu m'aides. Il y a un
plongeur,
mot pour ça. Non.
Plongée sous-marine.
Non, son métier, c'était... Voyons, tabarnouche, 88-971-1021. Elle faisait pas juste ça dans l'eau. Là. Tu peux faire ça, tu sais, avec un petit pinceau, puis tu dépoussières des os, là.
Mettons
archéologue.
Log.
Ou tabarnouche. Et il n'y en aura pas de facile, mais juste 10h07. Elle était archéologue. C'est juste qu'elle a travaillé dans l'eau. Puis, tu sais, malgré justement son déficit d'attention, je veux dire, par passion, elle a été capable de faire ses cours. Là. Ça a juste été trois fois plus dur, puis elle bûchait pas mal plus parce qu'elle avait ce petit déficit.
Je te dis, c'était l'enfer. Tu sais, le nombre de personnes actuellement qui sont à l'Université Laval et qui s'en vont chercher la fameuse petite pilule magique là, pour être plus attentif, avoir plus de mémoire. Nous autres, on n'avait pas ça. Juste à prendre une pièce de théâtre. Quand j'étais au primaire, il a fallu que j'apprenne une pièce de théâtre au grand complet. Pas juste mon texte, mais le texte de tout le monde parce que je jouais dans toutes les scènes de la pièce de théâtre.
Oh mon Dieu!
Ce qui faisait en sorte que pour un gars TDAH ou TDA, je sais pas trop ce que j'étais à l'époque.
T'étais hyperactif?
Oui, vraiment.
Bon, H.
Oui, vraiment. Mais il est parti, le H.
Okay.
Je sais pas si c'est parce que j'ai vieilli ou parce que... Le système m'a cassé.
Écoute, peut-être un peu des deux.
Il fallait que j'apprenne toutes les pièces. Je pense qu'il y avait 12 pièces, puis 12 moments dans cette pièce-là. Puis j'ai appris le texte de tout le monde. Fait que je l'avais enregistré verbalement sur mon Walkman Sony jaune.
Puis tu l'écoutais?
Puis je l'écoutais le soir avant de me coucher.
Hé, je faisais ça aussi!
En plus de le lire. Puis après un mois et demi, je connaissais tout par cœur, ce qui fait en sorte que même pendant la pièce de théâtre, il y a des gens qui se souvenaient plus de leur texte devant moi sur scène, puis je leur disais, tu sais, c'était quoi leur prochaine parole.
Mais ça, c'est fou parce que c'est prouvé, puis moi, j'avais de la misère avec les grosses études d'avant-examen, là. Souvent, je prenais la petite pilule, là, le soir, mes parents allaient se coucher, puis moi, j'étudiais toute la nuit, là. C'était là que j'étais fonctionnelle parce qu'il n'y avait rien pour me déranger. Puis je me souviens qu'avant de m'endormir, quelques heures avant l'examen, je m'étais enregistrée, puis je faisais exactement la même chose que toi. J'écoutais, puis je l'écoutais en boucle, puis tu t'en rends comme pas compte, mais ça rentre un peu dans ta tête pendant que tu t'endors. Tu te réveilles le lendemain, puis d'un coup, tu sais plein d'affaires. C'était ma façon d'étudier aussi à l'époque, c'est spécial.
Ouais,
hein?
Mais j'avais développé cette technique-là. J'étais très jeune, puis je savais que je pouvais apprendre quelque chose, mais oui, c'était un peu comme ta mère. Là. C'était tout le temps un petit peu plus long, parce que des fois, c'était des domaines dans lesquels ça m'intéressait un peu moins. Tu sais, maths, ça a tout le temps bien été. Là. Maths, j'étais tout le temps hyper performant. Mais français, là, quand le professeur, là, c'était le...
C'est
tu sais, le vieux syndiqué à moustache, là, qui a du poil dans le nez, du poil sur ses oreilles, puis que ça fait 20 ans en ligne qu'il répète la même matière de la même façon. Cet homme-là attendait sa retraite, mais moi, j'attendais qu'il meure pendant l'année pour apprécier
Yannick.
Sa matière. T'avais pas idée à quel point je détestais ces profs-là. Puis je sais pas si ça existe encore, des profs comme ça aujourd'hui,
Bien,
mais
c'est
des endormeux, là.
Mais oui, parce que être enseignant, c'est une vocation. T'as autant de bons professeurs passionnés qui sont dans le bon métier que de gens qui sont pas à la bonne place. Puis, tu sais, tantôt, tu disais d'avoir des profs intéressants. Moi, en histoire, moi, j'aimais que tu me racontes une histoire. Mais quand c'était de la grosse matière, j'avais de la misère en histoire. Puis c'est ironique parce que ma mère, justement, a fait ça de son métier au départ. Par contre, à un moment donné, je suis tombée en quatrième année de secondaire sur le prof d'histoire le plus extraordinaire au monde. Lui, il avait une façon de communiquer sa matière qui faisait que j'étais complètement absorbée, puis je pense que c'est le meilleur prof que j'ai jamais eu. Même chose au cégep, actualité internationale. C'est un cours avec lequel j'avais de la misère au début parce que, je veux dire, je connaissais un peu l'actualité du Québec, mettons, mais à l'international, j'avais pas toujours eu un intérêt marqué. Puis ce prof-là, Éric Arsenault, pour ne pas le nommer, qui fait encore de la radio et des chroniques ici et là de temps en temps, avait une façon de partager sa matière qui faisait que, on dirait que tu voulais pas le décevoir. C'était quelqu'un que t'estimais comme individu, puis il était tellement bon dans la façon de partager sa matière que... t'étais accroché ben raide à ses lèvres. Fait que des fois, je pense que c'est pas juste une question de matière, mais de personne qui la transmet aussi.
Oui, puis on a tous des profs qui nous ont marqués. Moi, tu vois, j'ai commencé à triper vraiment sur la langue anglaise puis d'être performant à l'école en anglais quand j'ai rencontré un prof qui a dit « Savez-vous quoi? Plan de cours ne m'intéresse pas pantoute. Écoutez-vous de la musique, oui? OK, parfait. On va traduire toute l'année des albums de musique. Ouais. »
C'est puis, malade, ça.
Là, on avait... Nous autres, on... C'était un petit peu bizarre, là. Il y avait des gens trippés sur Michel Louvain. Nous autres, c'était Metallica. Et on prenait un album de Metallica, puis on choisissait notre toune dans cet album-là, puis on la traduisait.
Arrête-toi!
C'était nos travaux, même les travaux scolaires. Puis des fois, on en faisait plus que ce que le prof nous demandait, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce que le band disait au travers ses chansons, tu sais. Quand on parle pas anglais, on était juste... Bon, tu sais, des fois, on essayait de chanter, puis on disait pas les bonnes affaires.
Oui.
Mais une fois que tu comprends ce que le chanteur veut dire à travers ses chansons, c'est une autre histoire. Puis on en jasait avec le prof après. Tu sais, ce prof-là m'a marqué à vie, là.
C'est vraiment une belle façon de faire.
Vraiment. Puis tu sais, de le voir, là, comme pogner son plan de cours, dire, moi, c'était ce type de plan de cours-là, ça fait 20 ans que je l'ai, ça m'intéresse pas. On fait de la musique.
Hey, t'es chanceux, là. Moi, c'était des présentations orales de schnoutes. Puis si on avait le malheur de dire, on avait des bacs au milieu de la table avec des petits soleils.
Ouais.
Puis si on avait le malheur de parler en français dans le cours, à nous enlever des soleils! C'était détestable comme façon d'apprendre l'anglais. J'ai détesté ça.
Détestes-tu la neige, toi, ces temps-ci? Parce que je pense qu'il y a une tempête de neige depuis hier. Moi, j'étais sur les routes. J'étais entre Bellechasse puis la Beauce hier, en plein cœur de la tempête. Des fois, je voyais pas à 20-25 pieds. Pendant que mes gars dormaient dans le char,
ouais.
Tu sais, les meilleurs covoituriers du monde. Là.
Oui, ouais. Copilotes.
Eux autres, ils se sont endormis. On est sortis de l'aréna, là. Se sont endormis pendant que moi, je me posais des questions à savoir qu'est-ce qu'il y a à 10 pieds du char, puis y a-tu une vanne qui va me rentrer dans le péteux à un moment donné? Je roulais dans une zone d'à peu près 90, là. Je devais rouler entre 5 et 15 km/h.
Sa route, ça devait vraiment être détestable. Mais
parce que tu sais pas ce qu'il y a devant.
Exact. Mais pour une fille qui était écrasée, mettons, sur son divan dans son salon à lire des livres, c'était écouter des séries, puis vivre sa vie, c'était une journée extraordinaire de tempête.
Non, écoute, des fois, je regardais, puis je sais pas pourquoi nos wipers, ils fonctionnent pas super bien quand il y a ce type de température. Là. Il y a tout le temps de la glace qui se forme sur les wipers. Puis là, tu sors ton bras. T'es tout mal à manger. Tu sors ton bras pour essayer de faire ça. Mais je me fiais sur les bouts d'asphalte, Audrey.
Pour te diriger.
Ben oui, parce que je suis dans le champ. Là. Je suis entre Bellechasse puis la Beauce. Fait que je vois pas à 10-15 pieds du char. Fait que je regardais des fois, OK, il y a un bout d'asphalte là. Ça veut dire que ça, c'est la route. Puis là, je ralentissais. C'était l'enfer.
Surtout que t'avais sûrement personne devant toi pour te diriger. Là.
Non. Non.
Pauti.
Pas personne s'est offert pour marcher devant le char pour me dire par où passer. Fait que quand je suis arrivé chez mes gars, j'étais allé porter. Je suis redescendu sur la 73. C'était pas plus beau, mais bref, salutations aux gens qui font du déneigement. Je pense qu'ils ont été gâtés là, en quelques jours, deux tempêtes. Ils n'ont pas fini. Il leur reste encore de multiples heures à faire pour ramasser tout ça. Les gens qui se plaignent pour la neige là, dans leur stationnement privé, sérieusement, êtes-vous conscient de ce que vous demandez des fois quand il y a des grosses bordées de neige comme ça?
Faut que tu pètes, là. Faut qu'il y ait un effort à faire, là.
Un gars à qui j'aimais jaser dans le temps, qui était un de mes collaborateurs, est à Montréal. Puis là, il dit « Je paye 1600$ pour avoir un stationnement plein de neige. » Puis là, clairement, il est sorti hier après-midi où la neige n'était pas encore tout à fait commencé à Montréal. Il devait avoir un pied et demi de neige dans le stationnement.
Il était pas prêt, lui-là. Là.
Mais lui, il voulait pas ça, là. Il voulait pas de la neige dans son stationnement. Il s'attend à ce que le déneigeur ramasse les flocons au fur et à mesure qu'ils tombent.
Qu'il mette un filet au-dessus de la maison. Là.
Ben, c'est ça. Ben oui. Lui, il se promène. Là. Il se promène dans le quartier. Là.
Le monde était conscient, mais le monde est chiant.
Il n'arrête pas. Puis eux autres, il faut qu'ils dorment aussi au travers. Fait qu'ils vont regarder la tempête est rendue à quel endroit à peu près.
C'est surtout qu'on va se le dire, on n'a plus grand neige là, depuis le début de l'hiver. Ça fait deux tempêtes qu'on a en moins d'une semaine, mais ça a été vraiment tranquille jusqu'à maintenant. Je trouve qu'on chiale un peu poche pleine.
Mais tu sais, t'as l'autre là, qui dort pas pendant 24, 48, plus d'heures que ça. Il dort pas pantoute, puis il se fait à plus sur son téléphone parce que...
Son entrée est pas faite.
Tu Serge, il juge que 25 cm de neige dans son stationnement de logement, c'est peut-être un peu trop pour lui.
T'as-tu déjà vu sur les réseaux sociaux le gars qui sort sa torche?
Son lance-plante?
J'ai jamais vu ça.
Son lance-plante?
Puis qu'il il dégage toute son entrée d'asphalte avec son... lance-flamme en faisant fondre la neige parce qu'il était cœur et raide d'attendre.
Oui. Oui, ça, c'est mon genre de monde.
Je trouve ça cœur.
Quelqu'un qui dit « Comme ma blonde dit, j'aurais aimé qu'elle tombe à Noël au lieu de fin février. »
Ouais, ça, je suis ouais. d'accord.
Mais il y a quoi? Il reste quelques jours encore en février? Il reste quoi? 2 semaines à peu près? Février, mars, avril, après ça. Avril, c'est fini.
Non, avril, ben, ça dépend des années. Là. Des fois, ça étire presque jusqu'en mai. Hey, en vrai, il y a encore de la neige. Il y a toujours la tempête de... C'est-tu la Saint... Et là, je vais peut-être dire n'importe quoi. C'est-tu la Sainte-Pâte qui est en avril?
Ouais, en vrai, c'est pas mal le dernier mois où ça brasse un peu. Là.
Ouais,
tu commences
toujours
à
une dernière tempête en avril.
Première prémisse du printemps. Mais bref, lâchez pas, les amis. On pense à vous autres, ceux qui sont sur la route pour déneiger. C'est pas
nos
toujours
facile. Nos
camionneurs
aussi.
418-971-1021. 418-971-1021. Camionneur qui a fait un mise en portefeuille sur l'autoroute 20. On le salue. Quand tu fais une mise en portefeuille aux petites heures du matin puis tu sais que tout le monde va te chialer dessus dans le trafic après, ils ont détourné dans le secteur de Lévis, ils ont détourné la circulation au centre-ville de Lévis parce que les gens pouvaient juste plus passer.
Plus passer, Seigneur. Ouais. Bien, je suis contente qu'ils soient en sécurité, c'est surtout ça. Là. Le reste, moi, je m'en bats un peu. Je comprends que c'est tannant pour votre petit matin, là, mais ça a dû être stressant, ce genre d'accident-là.
Ouais. Hey, gros sujet aujourd'hui, on parle avec Vanessa Daigle, qui est nutritionniste, puis j'ai bien aimé son petit, son petit résumé des trucs qu'elle va nous aborder. Mais moi, je veux savoir comment on perd le gras de bedaine.
Oui.
Tu sais, il y a des gars qui sont minces, mais ils ont du gras. Ou la bedaine, on se pose toujours des questions par rapport à ça. Il y a des gars qui sont minces, mais qui ont des problématiques parce qu'autour de l'abdomen, il y a du gras, mais extrêmement dense, qui serait le gras le plus dangereux, qui pourrait même donner le cancer. On va jaser de ça avec Vanessa. Tu sais, t'as l'impression que tu dis ben « non, mais je suis pas gros, fait que je suis en forme », mais ça se peut que ton corps soit vraiment en piètre état.
L'inverse est aussi vrai. En passant, t'as des gens qui ont un peu de gras sur le corps puis qui sont en shape au niveau cardiovasculaire, mettons. Là.
Moi, j'aime beaucoup l'avis des médecins là-dessus. Là. Quand t'es obèse puis que tu dis constamment que t'es en forme, c'est pas
là,
vrai.
Là, t'es dans l'extrême. Là.
Mais les médecins le disent. T'sais. Fait que je peux me permettre de répéter ce qu'un médecin dit. J'ai de l'air
mais là, t'es dans l'extrême.
Et en plus, je t'appuyais sur les médecins. Mais un cardiologue qui était venu ici à l'émission quand j'ai commencé ici, c'était Elodie qui était là. Il disait qu'il y avait beaucoup de misère avec les médias qui parlaient un peu de la grosseur des gens versus la santé. Lui, il disait, on va arrêter tout de suite. Quelqu'un qui est obèse n'est pas en santé.
Bien là, encore une fois, on est dans les extrêmes. Je pense que quelqu'un qui est un peu en surpoids, tu comprends, mais qui s'entraîne au bout, tu peux manger full, puis pas peser 140 tout mouillé, ouais. Mais t'entraîner tous les jours, tu comprends, puis avoir une super bonne santé cardiovasculaire. Là.
Obésité morbide, ça embarquait dans ce qu'elle me mentionnait. Puis il m'avait mentionné aussi à ce moment-là, les gens qui sont maigres comme moi, là, ben si tu peux avoir une formation de gras autour des abdos. Puis c'est ça, des fois, qu'on a l'impression, tu sais, ouais, on n'est pas gros, mais on a comme une petite bedaine.
Mm-hmm.
Ben c'est ce gras-là qui est hyper dangereux pour les gars. Fait qu'on va jaser de ça avec Vanessa.
Je suis curieuse de savoir aussi, homme versus femme, parce que souvent, chez la femme, on entend parler que, je veux dire, le petit bide qui reste toujours est un peu normal, là, dû à notre intérieur, le fait qu'on fait des bébés et compagnie, mais c'est différent chez l'homme à ce niveau-là. Bien manger sans que ça goûte la chenoute. Ça aussi, j'ai hâte qu'on en parle. Puis moi, il y a des mythes que j'ai envie de défaire avec elle. Tu sais, en vieillissant avec l'âge, on va se le dire, là, nous autres, notre public cible à Boulevard, c'est toujours l'homme autour de 40 ans. C'est la majorité, mettons, la moyenne d'âge que vous avez, les auditeurs. Puis on parle qu'en vieillissant, la libido, des fois, va diminuer. Puis il paraît qu'il y a quelque chose à faire avec l'alimentation à ce niveau-là. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Fait qu'on a des sujets et des questions ce matin, évidemment, si vous en avez. 418-971-1021 texto.
T'as-tu déjà pris l'avion?
Mais je l'ai pris il y a une semaine.
Ça a-tu déjà été retardé?
Non, j'ai toujours été quand même chanceuse à ce niveau-là.
T'as jamais eu de retard?
Non, j'ai été devancé même.
Devancé, OK. Moi, j'ai jamais été devancé. La plupart du temps, moi, je voyage avec Sunwing. En fin de semaine, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux critiquer Sunwing.
Surprends-toi pas, ils ont tout le temps des retards, Sunwing.
J'ai jamais travaillé pour Sunwing. Moi, les seuls problèmes que j'ai eus, mais en même temps, je voyage régulièrement avec Sunwing. Les seuls problèmes que j'ai eus, c'est quand il y avait des tempêtes de neige. À un moment donné, il y a 2 ans ou 3 ans, pendant le temps des fêtes, il y a eu une tempête de neige. L'Ontario et le Québec avaient été touchés. Puis là, Sunwing avait pris énormément de retard. Puis finalement, après 2-3 jours où on était supposé partir du Mexique pour s'en venir vers ici, ben on a réussi à se faire rapatrier. Mais le pilote a dit aux gens, tout de suite, quand on embarquait dans l'avion, « Dépêchez-vous, assoyez-vous, parce que je vais défoncer mes heures. » Puis en jasant avec l'hôtesse de l'air, ce qu'elle me mentionnait, c'est que Sunwing, c'est une bonne entreprise à l'époque. Là, ça a changé de propriétaire. C'est une bonne entreprise, mais il roule beaucoup low staff. Ils s'organisent pour que les employés puissent faire leurs heures, bien entendu, puis qu'il n'y ait pas d'employés à temps partiel. Ils veulent faire travailler leurs employés, ce qui fait en sorte que quand il y a du débordement comme ça, avec des problèmes météo et tout ça, bien, il y a des pilotes, exemple, qui ne peuvent plus voler tout simplement parce qu'ils ont dépassé leurs heures possibles de vol. Mm. Puis c'est arrivé en fin de semaine encore au Mexique où les pilotes ont dit, bien, nous, on arrive, on ne peut pas repartir parce que nos heures de vol, ils vont être défoncées. Fait qu'ils vont être des hors-la-loi, en fait.
Mais c'est insultant, je trouve, pour les gens qui payent pour que leur vol revienne au bon moment.
Parce que là, t'es pogné comme pour attendre une journée de plus, 2 jours de plus. Puis là, ben c'est le pilote qui ne peut pas repartir parce que ses heures sont sur le point d'être défoncées en raison du fait qu'il y a une tempête de neige à Québec ou en Ontario, tiens. Mais rendu là-bas, ça va bien, là.
Ouais.
Fait que tu peux prendre des gens d'ailleurs, les faire amener là puis les ramener ici, là.
Ouais.
C'est juste que Sunwing fonctionne pas comme ça.
Ben, je pense que c'est pour ça aussi que la réputation commence à se créer tranquillement, pas vite, là.
Va falloir qu'ils fassent quelque chose à un moment donné parce qu'il y a de plus en plus de gens qui chialent contre Sunwing, alors que moi, je trouve que c'est une belle entreprise, là. Tu sais, le staff de Sunwing, je sais pas si tu les as déjà pognés.
Oui, mais j'ai déjà volé avec Sunwing.
Hyper souriant, gens super gentils.
C'est la structure.
Mais les problèmes d'heures de pilote, ça semble être courant. Puis, il y a le gouvernement qui est en train de mettre une structure en place qui fait en sorte qu'il va y avoir du dédommagement pour les voyageurs, sauf en cas de météo.
Oui, mais c'est là qu'est le problème.
Mais c'est souvent là qu'est le problème.
C'est ironique quand même.
On peut comprendre que si tu pars de Québec et il y a une tempête de neige, on peut comprendre que tu ne peux pas décoller. Ça. Mais quand tu es au Mexique puis il fait super beau, puis on dit « Ouais, c'est parce qu'avant, hier, il y avait une tempête de neige en Ontario, là, ça a retardé nos opérations, il y a des pilotes qui ont été déplacés. » Ça, ils devraient...
C'est insultant.
Ben, ils devraient peut-être un peu plus travailler là-dessus, mais je comprends qu'ils veulent faire travailler leurs pilotes, t'sais.
Ben, je comprends full aussi, mais le problème, c'est que tu es un service aux clients. Faut que tu le fasses comme du monde, sinon ton but n'est pas vraiment réalisé, là.
Exact. Tu sais, les gens de Punta Cana qui se sont fait prendre aussi. Puis Sunwing justifie les retards en disant, écoutez, nous, on a été retardés par des conditions hivernales sévères.
C'est juste que ça, c'est facile parce que, tu sais, c'est facile à dire, mais toutes les autres entreprises le vivent pas de la même façon. Fait que c'est là que tu dis que peut-être que c'est à eux de s'adapter. Puis c'est plate parce que de plus en plus, quand tu fais affaire avec des agences de voyage, souvent, on te met un bémol sur Sunwing. Et pourtant, tu l'as dit, là, c'est pas une question de staff, c'est pas une question, je veux dire, tout se passe bien quand tu décolles.
Il y a quelqu'un qui dit « Mon avion a déjà décollé plus tôt. » Comme ça, toi.
Le pire, c'est que c'est le fun, c'est juste qu'il faut que tu sois au courant.
Ouais. Max qui dit « Salut Marceau, on s'est sûrement croisé au Starboard dans le temps. J'allais atteindre la neige là. Je faisais du déneigement pour la licence des pilotes. Je te lève mon chapeau. Je suis pas TDAH. La théorie est quelque chose. Je l'ai fait par Zoom au début de la pandémie et ce n'était pas parfait, surtout pour la navigation avec la grosse carte et tout le monde qui parle en même temps. Continuez votre bon job. Merci. » Mais cours de pilotage, ça dépend. Moi, j'ai fait ça avec Pro Aviation. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette entreprise-là. Là, maintenant, elle est fermée parce que c'est une entreprise de pilotage qui avait lieu. C'est une école de pilotage qui était à l'aéroport Jean-Lesage. Puis on avait aussi... c'était pas en Montréal. Mais bref, c'était un aéroport qui était proche de Montréal, là, où Pro Aviation était là. C'était pas Mirabel non plus. C'était l'autre avant. Je perds son nom. Je pensais pas parler de ça à matin. Mais il y avait... L'école de pilotage à ces deux endroits-là, ce qui fait en sorte que quand tu ne pouvais pas décoller à Québec, exemple, ben, ils t'envoyaient là pour continuer tes trucs. Mais pour ce qui est de la théorie, c'est tel que tel. Tu as des livres à étudier. C'est plus compliqué dans notre tête qu'en réalité.
J'imagine que ça dépend pour qui aussi, là.
Je pense, non, mais tu serais probablement dans les meilleurs élèves.
Ah oh, ouais.
Oh, oui?
Tu penses?
Oui, Saint-Hubert. Merci, Alex. Proaviation était à Saint-Hubert aussi. Malheureusement, c'est fermé aujourd'hui, mais je l'ai fait en 4 mois, ce cours-là.
Eh hey, mon Dieu, c'est quand même rapide.
À l'époque, en 2006, je ne sais pas comment ça coûte aujourd'hui, mais c'était autour de 10 000 $ Puis si tu allais chercher ton commercial, ben là, ça pouvait aller jusqu'à 50 000 $
Tu vois, me suis dit pendant mon voyage la semaine passée que si jamais, mettons, je savais plus quoi faire dans la vie, là, puis que j'avais le goût de me rediriger puis juste d'avoir du plaisir, là, je deviendrais peut-être hôtesse.
Je ferais tellement pas leur job.
Ils ont vraiment l'air d'avoir du fun, moi,
ils
je trouve.
Ils ont l'air vraiment heureuses. Mais ils travaillent dans des conditions, des fois, qui sont épouvantables. Tout est petit. T'es tout le temps serré. T'as jamais de place. T'as tout le temps des gens qui sont pas d'accord avec ci, pas d'accord avec ça, des gens qui chialent, les problématiques. Faut que t'expliques aux gars que... Je suis désolé, faut que tu mettes quand même ta ceinture de sécurité au décollage. Ouais, mais là, c'est trop serré. Ils ont de l'air tout le temps heureuses, les hôtesses de l'air puis les hôtes de l'air.
Ben moi, je trouve que oui. Écoute, celle qu'on avait du moins dans notre vol de retour dimanche passé, il était couché ses bancs au fond avec une doudou et un oreiller. Ils lisaient leurs livres. Ils passaient de temps en temps nous donner des collations, ramasser des cochonneries, nous jasaient. Tu sais, ça avait l'air tellement simple et le fun. Puis je parlais avec une qui me racontait que, écoute, elle, des fois, ils ont des stops où ils sont 2 jours à un endroit, mettons. Ils peuvent visiter un peu.
Ça doit être cool.
Honnêtement, ça a l'air vraiment le fun. C'est sûr qu'au niveau vie familiale, on repart. Passera peut-être, là. Mais je trouve que ça... Mettons que demain matin, là, je sais pas, là, je me rends compte que... Bon, je ne souhaite pas ça, mais je suis infertile, il y a rien qui marche, je peux pas avoir d'enfant, puis j'ai plus de chum. Je pense que je fais ça. Fait que c'est dans un monde très, très parallèle.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a de l'air tout
le temps. Ça a l'air cool.
Moi, travailler dans des endroits tout le temps restreints...
Ça te ferait paniquer.
Tu sais, quand ils passent avec le chariot, là,
ouais,
il y a plus personne qui peut aller aux toilettes. Non. Là, les gens se lèvent, ils te regardent, ils soupirent, alors que toi, t'as comme pas le choix de passer avec le chariot.
C'est ta job. Ouais. Donner des petits verres d'eau, des petits jus de pommes. Là.
Exact. Mais tu peux travailler dans un restaurant aussi. Il y a plus de place. T'es plus
oui,
libre.
Mais tu vois pas, tu voyages pas. Moi, c'est le fait d'atterrir dans des endroits que tu connais pas, dans des cultures que tu connais pas, d'avoir un petit 2 jours par-ci, par-là, je trouve ça hot.
Ouais. Écoute, on pourrait peut-être en recevoir une dans l'open mic. Là. Ça sert à ça, l'open mic.
Hey, écoute, je me mets une note définitivement. Je me mets ça dans la conversation.
Y en a-tu des hôtesses de l'air de carrière? Parce que des filles qui font ça 4-5 ans, j'en connais. Mais des filles qui font ça des décennies, c'est un peu plus rare. Puis probablement
en
raison du fait
que
quand t'as une famille et t'as des jeunes enfants... Partir tout le temps comme ça, ça doit pas être toujours évident.
Bien, si on en a ou vous en connaissez, 88-971-1021, écoute, je vais prendre les contacts puis les noms. Là. J'ai quelques personnes en tête, mais c'est des gens qui font ça depuis à peu près 3-4 ans sans plus. Là. Fait que ça va être de voir si on peut avoir quelqu'un d'un peu plus expérimenté.
Moins 13 degrés sur Québec, c'est de la neige pour aujourd'hui. On parle d'accumulation de neige de 2 cm pour aujourd'hui. Ce soir, un autre 2 cm. Les rafales qui vont se continuer tout au long de la journée. Demain, faible neige intermittente, poudrerie par endroit, maximum de moins 12 degrés, des rafales à 50 km/h. Mercredi, c'est nuageux, maximum de moins 5. Jeudi, alternance de soleil et nuages, maximum de moins 1. Et vendredi, ce sera ensoleillé, maximum de moins 7.
Dans la circulation Henri IV-Nord, la sortie pour le chemin Saint-Louis, la voie de droite est partiellement entravée. Il y a une sortie de route de ce côté-là. Soyez prudents. Évidemment, c'est au ralenti un peu partout sur le réseau routier là, avec les forts vents sur la route.
Indochine, le chant des cygnes sur les ondes de boulevard. 10h39 minutes, vous êtes sur les ondes de boulevard 102.1. Vous avez des choses à nous dire, il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021.
Vous rappelez qu'il y a un incident en ce moment sur Henri IV-Nord pour chemin Saint-Louis, voie de droite partiellement entravée, c'est une sortie de route. Il y a des difficultés sur le pont direction nord d'ailleurs, là, si vous êtes sur le pont Pierre-Laporte précisément, quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021.
C'est un plaisir de recevoir notre prochain invité. Les gars, si vous avez des troubles pour de bien manger, bien, ça va être votre meilleur ami pour la prochaine année. Son nom, c'est Vanessa Daigle. C'est pas la première fois que vous l'entendez sur nos ondes. Salut Vanessa!
Salut!
Très content de te jaser. C'est quoi la différence entre une nutritionniste et une diététicienne?
Ben, il y en a pas.
C'est la même chose!
Il y en a pas partout, c'est juste un synonyme. En fait, avant, le terme, c'était diététicienne.
Ouais.
Puis, tu sais, ça fait très référence à la diète.
La
on
diète,
dirait que c'est comme un peu négatif comme terme. Fait que plus ça va, plus on parle de nutritionniste. En fait.
C'est donc bien drôle. Moi, j'étais sûre qu'il y avait vraiment deux types de métiers. Puis je jugeais les diététiciennes
pour
mon nutritionniste.
Je me disais, c'est deux bacs, là.
Non, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, si vos assurances quand c'est marqué comme diététicienne, ben, ça couvre la nutritionniste. C'est exactement la même chose.
Ah, ben tu vois, c'est important, c'est important de faire la nuance. Puis pourquoi tu t'es intéressée au merveilleux monde de la diète ou encore de la nutrition?
Eh mon Dieu, ben moi je suis comme j'étais pas là-dedans pantoute là quand j'étais jeune pour vrai, je mangeais pas tant bien, je sortais d'un bar, je faisais pas trop attention, puis à un moment donné
t'avais une vie le fun.
J'avais une vie le fun.
À ce temps, tu surveilles ce que tu manges, là, ça goûte un peu plus
plate.
Fat.
Là.
Mais puis à un moment donné, je me suis mis à m'entraîner, puis j'étais comme crème, c'est le fun, puis là c'est comme un servicieux, puis je suis tombée dans cette passion là les deux en même temps là, training puis alimentation. Puis j'avais un bac en admin, moi je commençais une maîtrise en gestion de projet, puis tout lâcher pour aller en nutrition.
Ça a été quoi le déclic?
Ben ça, honnêtement.
Ouais.
Oui, honnêtement. Mets-toi à nu.
Ben, j'étais dans une phase de ma vie où j'étais tutorial dans un bar, puis je prenais trop d'alcool, je mangeais mal, puis j'avais pris une coupe d'olive, fait que je me suis dit...
T'étais résidente dans un bar.
Je devrais peut-être faire attention un peu à ce que je mange, fait que c'est là que... C'est ça, ça a vraiment été ça, pour vrai.
Quel déclic a été là.
C'est drôle, parce qu'on dirait que souvent, les professionnels de la santé au sens large, c'est un peu ça. Tu sais, on entend souvent que les psychiatres ou les psychologues, c'est parce qu'ils veulent comprendre leur propre mal-être. On entend souvent que les nutritionnistes veulent apprendre eux-mêmes à gérer ce qu'il y a dans leurs assiettes. Mm-hmm. Ça me fait rire.
Mais moi, j'ai un ami que j'aime bien qui est psychologue, puis j'ai une connaissance qui est psychiatre, puis je ne changerais pas ma vie avec la leur.
Non.
Effectivement, c'est particulier.
Ça a l'air compliqué dans le temps.
Ah, oui. Mais ils font un très bon travail. Vanessa Daigle, on commence avec la nourriture. Souvent, quand on entend parler d'une diététicienne ou d'une nutritionniste, on a toujours l'impression que, si, admettons, on rencontre ces gens-là, jusqu'à la fin de nos jours, notre nourriture ne goûtera plus rien. On n'aura plus le droit d'avoir des petites journées où, petite palette de chocolat, une petite bière, de microbrasserie. Mm-hmm. C'est-tu vrai?
Ben pas en tout. D'ailleurs, Audrey, je m'excuse, mais il faut que je te cite, là. Tu m'as tellement fait rire. Audrey m'envoie un message, puis elle me dit, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour bien manger sans que ça goûte la marde. J'étais comme, OK, sérieux? C'est quasiment insultant.
Mais je pense que c'est la façon la plus facile de le dire pour la majorité des gens qui se posent la question.
Mais en fait, moi, je dis toujours justement que ma job puis ma mission de vie, là, c'est de faire réaliser aux gens que manger santé, ça peut vraiment être le fun, pour vrai. Là. Puis toi, je pense que tu me suis sur Instagram. Je partage beaucoup de choses que moi, je mange. Puis je mange santé, puis pour vrai, je me régale. Là. La différence, la nuance, c'est dans les skills culinaires. Si tu sais cuisiner, si tu es capable de faire quelque chose qui est gourmand, savoureux, mais avec des ingrédients qui sont sains, qui sont cuisinés maison, c'est ça le fait, là, pour vrai.
Mais il est peut-être là le point intéressant, parce que je pense que les gens qui ne savent pas cuisiner se ramassent malheureusement à manger du riz, des brocolis puis du poulet sec, puis c'est là que ça les insulte.
Ben, il y a ça. T'sais, moi, hier, j'ai fait une découverte. Pour la première fois de ma vie, je mangeais quelque chose que je trouvais super bon, qui était très santé, du tofu.
Mm-hmm.
D'habitude, à la maison, quand je me faisais ça, vers ça. J'en mangeais, mais tu sais, du tofu, je trouve ça ordinaire. J'aime bien mieux, de la viande. Puis hier, de la façon dont c'était apprêté, ça goûtait le ciel. Au départ, je pensais, parce que j'ai vu des petits morceaux de tofu qui avaient été frits, je pense, là. Mm-hmm. Mais je pensais que c'était des petites patates déjeuner. Ça ressemblait à ça.
C'était
un genre de sous-marin avec des patates déjeuner. Non, c'était super bien assaisonné. Je me suis dit, ça a donc bien de l'air bon. J'ai goûté, c'était bon. Puis, dans le milieu du repas, je dis à Isabelle, c'est quoi on mange, hein? Elle se dit, tu manges du tofu. C'est bon. C'était la première fois que je mangeais du tofu qui était bien apprêté à mon goût à moi. Là.
Mais c'est
fait
ça.
Que c'est possible.
Mais aussi, c'est que l'historique, mettons, on remonte il y a quelques années, tu sais, ce qu'on voyait beaucoup, justement, ben, il y a la fameuse culture des diètes là, qui est comme vraiment dans la restriction. Puis, il y a aussi l'univers du fitness, tu sais, qui nous a comme appris, parce que si on fait référence plus aux gars, justement, qui ont peut-être ce modèle-là, là, qui vient du fitness, où on se fait son petit meal prep, tu sais, 5 petits plats pareils avec poulet, brocoli, puis riz basmati, genre. Puis ça, c'est que, justement, c'est tellement restrictif, puis on met tellement rien, tu sais, pas de gras, pas de sucre, pas de sel, que ça, c'est plate, tu sais. Mais entre, comme, manger, diète, puis restrictif, mal manger, il y a un monde de possibilités, tu sais, on parle tout le temps de l'équilibre, là, l'équilibre, je pense, c'est la quête d'une vie, là, mais tu sais, c'est que si on veut trop bien faire, qu'on s'attend à ce qu'à tout couper, là, pour que ce soit parfait,
on se décourage,
puis c'est là que c'est pas bon, tu sais. C'est correct d'en mettre un peu de sauce soya pour qu'il y ait du sel. T'sais, c'est correct d'en mettre un peu de sirop d'érable pour qu'il y ait du sucre puis que ça goûte, de rehausser avec une sauce piquante, des herbes fraîches.
C'est... Moi, c'est là que ça a souvent floppé parce que je suis pas une grande cuistot. Je prends rien à personne. Là. Il y a tout ce que je cuisine, généralement, ça floppe. puis le gros du problème était là parce que j'en venais à acheter plein d'aliments sains, mais que j'allais manger de façon un peu séparée sans les apprêter. Puis ça devenait plate sur un temps.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Vanessa Daigle, quand on est obèse morbide, on le sait qu'on n'est pas nécessairement en santé. Quand on est mince, on a l'impression qu'on est en santé puis qu'on n'a pas besoin de faire attention à notre alimentation. Puis j'en parlais avec Audrey. Les gars qui sont minces peuvent avoir du gras autour de l'abdomen. Puis un médecin qui me racontait que c'était un des pires gras qu'on pouvait avoir, mais que souvent, il était invisible. Parce que, bon, t'as pas de bedaine. Bon, il y a peut-être un petit rebond, là. Mm-hmm. On va se donner une chance. Mais le gras que tu peux avoir là, c'est un gras qui peut donner des cancers.
Bien, des cancers, puis plein d'affaires. En fait, c'est un gras qui va aller se loger au niveau des organes. Fait qu'il va faire en sorte que tes organes vont moins bien fonctionner. Puis, je pense que la plus belle illustration de ça, en fait, c'est la stéatose hépatique non alcoolique. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais dans le fond...
Stéatose hépatique non alcoolique.
Oui. C'est la maladie du foie. Le foie, dans le fond, c'est progressif. Fait que, dans le fond, c'est dans les premiers stades de la maladie du foie. Puis, il commence à y avoir des lésions au niveau du foie qui sont vraiment dues à l'accumulation de graisse qui se trouve là. Mais dans les 10 dernières années, la prévalence de stéatose hépatique non alcoolique, elle a comme bondi au Canada. Là, on est rendu à 20% des Canadiens qui ont une stéatose hépatique non alcoolique. Ça veut dire qu'ils ont une accumulation de graisse au niveau du foie qui font en sorte que le foie fonctionne mieux. Puis là, je te parle juste de cet organe-là, mais c'est parce que les statistiques sont débiles.
Ouais.
Mais c'est clair que ça a un impact.
Puis est-ce que c'est possible d'aller le chercher, ce gras-là, qui ne paraît pas du tout, mais qui est autour de nos organes? C'est possible d'aller le chercher pour l'enlever complètement?
Bien, par rapport à cette pathologie-là, là, de la stéatose, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est 100% réversible. Si tu n'es pas dans un stade trop avancé, mettons, si tu n'es pas rendu en cirrhose, là,
ouais,
tu changes tes habitudes de vie, effectivement, oui, là, c'est possible. Mais tu sais, quand dans le fond, on change nos habitudes de vie, l'affaire, là, c'est que... Puis une des questions que tu me posais, justement, André, c'est comment est-ce qu'on peut faire partir la petite bédaine? Mais tu sais, quand tu changes tes habitudes de vie, c'est pas toi qui décides où est-ce que tu vas le perdre, ton gras. T'sais, les femmes, souvent, c'est plus réparti. Là, les femmes vont dire, mettons, ben, moi, je vais perdre mon gras dans les fesses, mais là, on le sait pas. Tu peux en perdre de d'un bras, tu peux en perdre. Alors que l'homme, effectivement, si c'est localisé à l'abdomen...
Faut juste pas qu'il en perde dans les seins.
Mais souvent, ça vient aussi, ça, ouais, malheureusement.
C'est ça, c'est pas la première endroit
ça, les filles! On vous aime comme vous êtes!
Oui, mais le beau est inverse aussi, hein? C'est de là qu'on prend en premier, généralement, fait qu'au moins...
OK, donc on peut perdre ce gras-là qu'on ne voit pas, qui est autour de nos organes, qui est extrêmement dangereux. Y a-t-il des probabilités pour le cancer aussi? On parlait de toxines à l'intérieur de ce gras-là. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai, définitivement. Puis, tu sais, il faut savoir que le gras aussi, c'est pro-inflammatoire, là. Fait que, tu sais, une accumulation de graisse, peu importe où elle se loge, ça va générer de l'inflammation. Puis, tu sais, l'inflammation de bas grade, c'est un problème du siècle aussi, là. C'est vraiment pas un environnement qui est sain pour tout le fonctionnement métabolique. Ouais.
On a tous eu un oncle qui nous disait « Fesse dans mon ventre, tu vas voir, il est dur. » Un oncle avec une grosse bédaine.
Bédaine de bière.
Des fois, c'est plus une bédaine de bière.
Cette bédaine dure-là, c'est dû à quoi?
Bien, c'est vraiment ça, en fait. C'est que c'est la manière dont les gras sont logés autour des organes, en fait. C'est ce que ça fait, c'est la bédaine dure. Fait que c'est vraiment... La bédaine dure, c'est le gras qu'on veut pas. Là, c'est le gras qu'on appelle qui est viscéral, qui est dangereux, le plus dangereux. Puis c'est plus masculin parce que les femmes vont en avoir plus, justement, un peu partout sur le corps. Que juste dans l'abdomen.
À quel point, j'ai envie qu'on revienne à l'alimentation puis les substituts, parce que souvent, il y a des gens qui vont essayer au départ, comme avec la cigarette, d'aller vers la vapoteuse. Il y a des gens en alimentation qui vont essayer d'aller vers des produits qui sont transformés, mais qui sont « santé », entre guillemets. Me suis-tu un peu, tu sais, mettons, les fameuses chips qui vont avoir 20 grammes de protéines dedans, puis qui vont être moins caloriques. Puis je connais des gens qui ont comme vraiment fait des substituts dans leur alimentation pour ajouter beaucoup de ces produits-là en se disant, ben là, j'arrive à combler mon nombre de protéines dans ma journée, mais je mange pas nécessairement, tu comprends, de viande ou de... Ça va être genre les céréales qui ont été pimpées, les shakes, les ci, les ça. Où est-ce qu'on se dose, puis à quel point c'est bon, ces produits-là? C'est-tu à traiter comme un dessert, comme une gâterie, ou ça peut vraiment être incorporé dans une bonne alimentation?
Je pense que c'est vraiment des produits dépanneurs. C'est-à-dire que si t'es mal pris, t'es comme « Ah, oh, mon Dieu, là, j'ai vraiment faim, je suis sur la route, faut que j'aille me chercher un snack », tu sais, de prendre comme ça des chips qui sont protéinés, OK, ça va être le moins pire des choix, ou je sais pas, tu sais. Mais au quotidien, en fait, c'est que souvent, là, c'est qu'on regarde juste les valeurs nutritives, mettons, puis il y a des céréales que c'est vraiment ça. Là. Mettons, tu regardes les valeurs nutritives, OK, il va y avoir des fibres, il va y avoir des protéines. Mais au final, c'est tellement comme l'industrie alimentaire va prendre un produit qui est super raffiné, donc qui est vraiment comme qui a pas de valeur nutritive, puis après il va aller ajouter des additifs, donc un additif de protéines, un additif de fibres, puis là il va aller jouer comme ça avec les valeurs nutritives pour ajouter des petits plus qui vont faire en sorte que tu vas être rassasié. Mais watch out la liste d'ingrédients là, comme c'est
ça qu'on devrait regarder,
tellement. Puis moi, pour vrai, là, au fil du temps, tu sais, j'ai évolué aussi dans ma profession, dans le sens que quand j'ai commencé, puis souvent les gens ils s'initient à la nutrition en lien avec la composition corporelle, puis c'est un peu le sujet du jour là, tu sais, c'est comme ah ouais, je veux être plus en shape. Mais comme plus que tu apprends, puis plus que tu peaufines tes raisonnements, plus que la santé là, ça va au-delà de comme tu sais de justement les valeurs nutritives, les macros, mais la liste d'ingrédients. On mange des choses qui sont tellement transformées. Puis après ça, on se demande justement pourquoi qu'on a des cancers, pourquoi tout le monde a mal au ventre. Hey, les gens, ils ont des troubles digestifs plus que jamais. Là.
Et ça, là, c'est intéressant parce que moi, on me l'a appris comme ça. Là. Yann, quand j'ai commencé à avoir un nutritionniste il y a plusieurs années, là, ça fait un méchant bout maintenant. Là. Au début, on parlait beaucoup de mes macros puis de regarder justement les valeurs nutritionnelles derrière pour atteindre un certain nombre de protéines, de lipides, dépendamment de si je m'entraînais, je m'entraînais pas. T'sais. Puis la liste d'ingrédients, c'est quelque chose sur laquelle j'ai jamais été vraiment éduquée. Je sais que moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Mais as-tu un barème, mettons, à nous proposer? C'est quoi, quand tu as plus que 10 ingrédients, commence à te poser des questions?
C'est difficile à dire parce que des fois, parmi les ingrédients, il va aussi avoir comme une déclinaison d'ingrédients. T'sais, mettons le chocolat, ça contient du beurre de cacao, mais au final, c'est du chocolat dans ton ingrédient. T'sais. Puis des fois, c'est des vitamines aussi qui n'ont pas le choix de mettre là. J'ai vraiment de la misère à te répondre, mais si tu vois qu'il y en a plusieurs, au-delà de 2-3 noms compliqués que tu ne comprends pas, là, ça vaut la peine. Puis moi, un aliment que je consommais avant, que je croyais santé, puis que maintenant, je suis comme... c'est les tortillas. Tu sais, il faut se faire des fighters.
Ouais.
Oh, ouais.
Regardez la liste d'ingrédients de ça.
On va halluciner. Ouais. Je me pose des questions. Quand toi, tu vas faire ton épicerie, te reconnais-tu quand tu reviens à la maison après? Est-ce que ça prend 2-3 jours avant d'en revenir?
Ben, en fait, non, parce que maintenant, tout ça est très acquis. Là. Au contraire, ça me prend 36 secondes.
C'est rapidose. Okay.
Il y a une question d'auditeur qui est entrée. Ceux qui commencent l'entraînement, tu sais, on nous vend tellement de choses, style pré-workout, post-workout, créatine. Peut vite se perdre. C'est quoi qui est bon et qui est mauvais là-dedans? Tu sais, les fat burners et toutes ces patentes-là, là.
Fat burner, c'est vraiment pas supporté scientifiquement. Là. Honnêtement, cet univers-là, s'il y aurait des suppléments, des pilules là, qui feraient perdre du poids vraiment, là, on le saurait. Là, maintenant, on est sur Ozempic, Wegovy, c'est ce qui est efficace, pas les petits fat burners du magasin de suppléments.
Mais l'Ozempic est de plus en plus contesté parce qu'il fait fondre ta masse musculaire aussi.
Ah ouais, totalement. Les gens mangent plus, c'est fou. Là. Puis sinon, ben, pré-workout, je veux dire, c'est comme si tu prenais un Red Bull avant d'aller à l'entraînement. Là. Les gens aiment ça parce que ça leur donne un kick. Mais tu sais, si tu es super fatigué, tu prends un pré-workout pour aller t'entraîner. Après, tu vas pogner un méchant d'onde parce que ça a full de caféine, un pré-workout. Puis sinon, ben, les gens aiment bien les shakes de protéines après. Moi, je vois ça un peu comme un aliment, un shake de protéines. Honnêtement, c'est un dépanneur. C'est pas nécessaire, mais c'est pratique. Tu peux le prendre, mais au final, surtout si tu commences à t'entraîner. Tu sais, des fois, là, les suppléments, là, des fois, on parle de la genre de pyramide de la nutrition sportive. Là. La base, là, c'est ton alimentation tous les jours. Là. Tu sais, qu'est-ce que tu manges finalement, tes repas, ça ressemble à quoi? Après ça, as-tu des stratégies de nutrition sportive? Fait que justement, qu'est-ce que tu vas manger avant puis après tout de suite ton entraînement? Puis après, c'est les suppléments. Tu sais, ceux qui vont plus gagner à prendre des suppléments, c'est les athlètes de haut niveau, là. Pas quand tu commences ton entraînement.
Fait que la personne qui, mettons, un surplus de 50-60 livres puis qui se fait entourlouper puis qui achète quasiment le magasin Popeye au complet, il vient de se faire prendre.
Moi, je m'entraîne full, j'en prends pas de suppléments, là, pour vrai. Je pourrais, là, parce que c'est pas nécessairement toujours mauvais non plus, mais c'est juste pas nécessaire.
Ben, des fois, il y en a qui partent en peur aussi. Là. C'est comme quand t'as faim, tu vas à l'épicerie, t'achètes plein de cochonneries. Ouais, ouais. C'est la même affaire. Mais tu vas t'entraîner, t'es heureux, t'arrives dans
le boutique. Mais quand tu t'y connais pas aussi.
Ouais.
Mais ça vient avec un feeling au niveau psychologique. T'as l'impression de faire les bonnes choses.
T'es
en contrôle, t'as tes petites poudres, tu te sens bien. Ça te met comme dans un mood de genre, je prends soin de moi.
T'as dit, après ça, les gens se demandent pourquoi on a mal au ventre. Puis on dirait que ça m'a comme. On a déjà fait ensemble, un an et demi facile, une chronique sur la digestion puis les selles. Il y avait une étude qui était sortie, puis on trouvait ça spécial de parler de caca en ondes, mais c'est parce qu'on y va chaque jour, on fait toute la même affaire. Là. Et c'est quoi l'alimentation versus les troubles digestifs aujourd'hui? T'sais, j'ai l'impression que justement qu'avec tous ces aliments transformés-là, on se cause nous-mêmes certains problèmes. Qu'est-ce qui est peut-être à prioriser quand tu as de la misère avec ton processus puis que tu y vas pas chaque jour? Là?
C'est tellement un monde qui est complexe, Audrey, la santé digestive, en fait. Puis, tu sais, on parle de plus en plus du microbiote intestinal, là, qui est comme toutes les bactéries qu'on a dans le bedon. Ouais. Puis ça, on en apprend beaucoup au niveau scientifique, puis on en a encore beaucoup à apprendre, tu sais, dans les années à venir. Mais je te dirais qu'avoir un transit régulier, là, pour vrai, ça a l'air con, là, mais comme, est-ce que tu vas à la selle à tous les jours, puis est-ce que tu y vas 18 fois par jour? Sinon, il faut que tu prennes ça en charge. Puis, tu sais, c'est difficile de dire prendre ça en charge comme ça, en vous jasant une couple de minutes, tu sais. Faut quasiment consulter parce que les causes sont tu sais, faut trouver toi. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce que toi, tu digères pas? Il y a des processus.
Tu vas chez le médecin ou tu carrément?
Je te dirais nutritionniste, honnêtement.
Nutritionniste, oui. Ouais. Maladie de Crohn, tu dois avoir des gens aussi qui avaient cette maladie-là qui ont été te consulter. Les gens qui ont des intolérances aussi.
Intolérance, vraiment beaucoup. Les maladies de Crohn, l'affaire, là, dans le fond, c'est qu'il y a des troubles digestifs qui sont fonctionnels puis non fonctionnels. Les troubles digestifs qui sont non fonctionnels, ça veut dire que si tu vas prendre des radios, mettons, tu vas à l'hôpital, tu vas voir un gastro, il va vraiment trouver quelque chose. Il y a des lésions, il y a quelque chose qui est apparent. Fait que ça, souvent, sont pris en charge par le public. Souvent, je les ai pas, moi, dans mon bureau parce qu'ils vont avoir eu des petites recommandations. C'est correct. Ce que je vois full, c'est les autres. C'est les troubles digestifs qui sont fonctionnels, c'est-à-dire que c'est vraiment comme une perturbation de l'équilibre de ton système digestif. Mais si on regarde, si on met la loupe, si on regarde au micro, là, vraiment, qu'est-ce qui se passe là, de plus près, on voit rien. On voit rien. Fait que tu sors de là, tu as fait tous les tests pas possibles. Les médecins disent que tu es correct, mais finalement, tu sais, tu souffres. À tous les jours, tu as mal au ventre, tu es constipé. Fait que là, eux, ils cherchent des solutions, puis c'est eux qu'on voit dans nos bureaux vraiment beaucoup. Là.
Vanessa Deck, j'ai mon petit bagage de préjugés ici. Voilà,
ah, j'aime ça.
Je l'ai, c'est parfait.
Il est assez plein, Vanessa, son bagage de préjugés. Là.
Bon, parfait.
Attends, pourquoi il était dans la poubelle?
Elle joue pas la comédie, elle!
Ben, ce sont des préjugés poubelles, certainement. Là, tu sais, c'est...
Est-ce que c'est vrai que les gars perdent plus facilement du poids que les femmes?
Définitivement. Oh! Hey, des fois, là, genre, j'ai des clientes qui me disent, là, genre, je fais tout ce que tu me dis, change, tu sais, mais c'est elle qui cuisine, fait qu'elle change plein d'affaires, puis elle dit, j'ai pas encore perdu de poids, puis mon chum, il a perdu full poids, puis lui, genre, il s'en fout.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent engraisser même s'ils mangent bien?
Je te dirais, engraisser, même s'ils mangent bien, ben mangez bien. Manger bien, déjà là, c'est très relatif. Là. S'ils mangent bien, mais trop, oui, ils peuvent engraisser. Mais est-ce que c'est vrai que les gens peuvent ne pas perdre de poids, même s'ils mangent bien? Définitivement, oui.
Est-ce que c'est vrai qu'on mange pas assez? Je me suis toujours fait dire, là, quand tu veux te mettre en shape, que là, faut que t'aies un gros déficit calorique. Puis, moi, on m'avait parlé du 1500 calories pour mon poids, ma taille, ce que je trouvais quand même pas beaucoup pour la grandeur que j'ai. Puis, on m'a dit, non, au contraire, la pensée change. Maintenant, il faut qu'on mange plus.
Ça dépend vraiment. Il y a des gens qui mangent clairement trop, là, ça, on va se le dire. T'sais, la bouffe est omniprésente. Les aliments sont denses en calories. C'est très spécifique, ça.
Moi, ce que j'avais entendu, c'est l'idéal, c'est d'avoir un petit déficit calorifique chaque jour.
Pas un énorme.
Pas un énorme. Parce que si tu as un gros, à un moment donné, ton cerveau et ton corps vont essayer de compenser.
Comme si tu étais en manque.
Exact. Puis il va se souvenir. Fait que si tu en donnes un petit déficit à chaque jour, tu as peut-être plus de chances de perdre du poids. Écoute, il y a plein d'autres questions que je voulais te jaser. Tu parlais tantôt des fat burners. Bon, ils rajoutent du poivre de Cayenne là-dedans pour que tu aies l'impression que tu transpires, alors que la transpiration a aucun... C'est fou à quel point l'industrie vient de nous chercher.
On voit des gens, des fois, qui sont entraînent avec des cotons wattés, là, juste pour avoir chaud, pour vrai.
Puis, est-ce que ça donne un résultat?
Ben la chaleur, non. Par contre, le poivre de Cayenne contient de la capsaïcine. Je suis pas sûre que je le prononce comme il faut. Mais ça, il y a quand même la littérature qui a démontré que ça pouvait stimuler le métabolisme. Fait qu'il y a peut-être ça aussi, là, au niveau de cet ingrédient-là.
Parce que ça, ils en mettent même dans un petit shake dose, là, que tu vois, là, que tu bois le matin avec du gingembre et du citron. Mm-hmm.
Comment ça s'appelle, les gens qui mangent très, très gras, puis ils mangent plus sucré, puis là, ils perdent du poids, là? Il y avait un régime comme ça, le régime keto. je sais pas si on peut encore en parler sans avoir de menace de mort, là. Mais c'est rendu où, le régime keto? C'est encore à la mode ou les gens ont complètement décroché de ça?
Je pense que les gens ont décroché. Puis c'est drôle parce que l'autre jour, j'écoutais un balado puis l'invité était comme, c'est une pro keto. Puis elle a dit, maintenant, on ne dit plus keto. On dit alimentation méditerranéenne, faible en glucides. Ah, OK, ça ne marche plus keto. Fait que vous avez changé de nom.
Mais ça, c'est cute. Quand tu parlais de ça comme ça, là, je trouvais ça assez particulier. Moi, j'avais déjà reçu une diététicienne qui, elle, était contre le régime keto. Puis elle avait eu des menaces de mort.
Ah ouais, ouais. Dans le temps, c'était fou.
C'est sectaire, là.
C'est capoté, c'est complètement débile. Ouais. Mais c'est aussi que... Puis encore là, tu sais, je comprends que ça a été prouvé dans la mesure où il y a vraiment des gens qui ont perdu du poids avec ça. Puis corrige-moi, Vanessa, là, mais j'ai l'impression qu'un des gros problèmes, c'est qu'il faut que tu le maintiennes à vie, parce que si tu arrêtes un moment donné, bien, en tout cas, de ce que j'ai compris, ouais, tu reprends pas mal ce que tu as perdu, là.
Ouais. Mais ça a beaucoup changé la patente au niveau de la pensée en lien avec l'alimentation. Là, je vous cacherai pas que ça a amené des réflexions qui sont intéressantes, notamment qu'il y a certaines personnes qui peuvent manger vraiment plus de gras puis moins de glucides. Mais effectivement, si tu le tiens pas à vie, tu vas finir par reprendre du poids. Puis à ce moment-là, mais le plus gros problème en fait de la diète keto, c'est que justement que les gens sont pas capables de le suivre. Ils sont pas capables de le suivre. Ils partent en voyage, ils vont chez des amis, ils vont au resto. Ils sont comme... C'est pas durable.
C'est pas super équilibré, là. Il y a quelqu'un qui te demande... ouais, mais là, je remplace mes tortillas avec quoi? Parce que là, tu as parlé des tortillas tantôt qu'il y avait beaucoup de listes d'ingrédients.
Je sais.
Il dit, je prends toujours ma portion quotidienne légumes, poulet là-dedans. Fait que là, je fais quoi? Je prends au blé. J'ai-tu un substitut?
Non, au blé, c'est pareil, là. Je sais pas. Je suis vraiment fâchée contre les tortillas. Mais en fait, il y a deux choses, OK? Là, dernièrement, j'ai découvert les... puis je suis même pas sûre, je vais vous le dire comme il faut. J'ai découvert les tortillas, je pense que c'est Azim, mais ça se vend chez Avril, qui sont clean. Sinon, il y a les pains pita. La différence entre un pain pita puis un tortilla, c'est vraiment fou au niveau de la liste d'ingrédients. Mais tu sais, je vous ai dit ça, puis je vous avoue que si je mange des fighters, je vais en acheter, là. C'est juste que, mettons, j'ai pas...
C'est un exemple.
Je me fais plus un wrap au thon que je pense santé sur l'heure du dîner. Tant qu'à ça, je vais me mettre dans un sandwich.
Comment... en fait, j'ai vu des affaires sur la libido avec l'âge. Je veux dire, on a un auditoire qui est autour entre 30 et 45, mettons, en majorité.
On est encore capable.
Vous êtes capable, oui, mais je veux prévenir. On prévient au lieu de guérir, Yannick.
Elle parle de nous autres comme des vieux finis.
C'est Yannick qui voulait que je pose la question. Il y a certains qui s'inquiètent d'une bonne libido avec l'âge. Est-ce que l'alimentation peut aider ou c'est un mythe?
Définitivement, l'alimentation peut aider. L'alimentation est très liée au système hormonal, puis la libido est liée aux hormones, là, on ne se le cachera pas, là. Donc, d'ailleurs, les hommes, tu sais, dans un contexte de fertilité, je m'en vais un petit peu ailleurs, là, mais tu sais, la fertilité, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes maintenant de fertilité, puis les gens s'imaginent que c'est le dossier de la femme, là. Mais même au niveau des hommes, tu vois, j'ai une collègue en tête, elle a fait une formation en nutrition pour la fertilité chez les hommes. Fait que tout ce qui est fertilité, libido, ça peut avoir un lien avec l'alimentation.
Je me rends compte de plus en plus que plus je suis pressé puis que j'ai pas planifié mes affaires, plus je mange mal.
Mm-hmm. Je pensais que tu allais dire plus que c'est difficile la libido.
Oui, ben là, Yann, ton problème est exposé.
Vanessa Deng, c'est une blague qu'elle faisait.
Je veux pas te...
Donc, plus tu manges mal.
Mais c'est vrai. Tu sais, des fois, là, j'avais pas prévu rien pour souper. Puis là, je me dis, ah, mais j'ai faim là. Mm-hmm. Faut que ce soit rapide. Puis c'est là que je prends des mauvaises décisions.
Ah, tellement, là, tellement.
Tu coûtes tout le monde.
Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, de planifier, d'essayer de penser, de réfléchir notre semaine, c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est trop facile, justement. En fait, c'est que l'industrie alimentaire nous rend les choses simples. Fait que si t'as pas le temps, ça te tente pas de cuisiner, c'est du rapide, c'est du prêt à manger. Fait que c'est l'industrie alimentaire, c'est les aliments transformés. Puis, tu sais, ça nous arrive tous, là. Fait que, tu sais, faut avoir des backups, faut voir ça venir. Ouais.
Excellent. Tu parlais d'entraînement tout à l'heure. Les gars sont capables de descendre un taux de gras qui est hallucinant, là, ouais, un genre de 3-4 %. Puis les filles sont capables de descendre jusqu'à 10, 11, 12 %. Mais c'est quand même dangereux pour leur vie. C'est quoi le pourcentage de gras idéal pour un gars, pour une fille?
Eh hey, mon Dieu! Honnêtement, c'est une bonne question dans le sens que je navigue plus là-dedans. Ouais. On n'est plus de même en nutrition de dire comme « Ah, c'est quoi ton pourcentage de gras? » On calcule plus ça. Moi, je travaille en virtuel, j'aide les gens. Puis tu sais, même des fois, quand j'aide les gens en perte de poids, ouais, des fois, je leur demande même pas leur poids dans le sens que moi, ma job, moi, je suis la spécialiste de l'alimentation. Fait que ce que je vais faire, c'est t'aider à améliorer le plus possible ton alimentation. Je suis pas la spécialiste du pourcentage de gras dans le sens que les gens pensent que le gras, la masse corporelle, c'est activité physique puis alimentation, mais il y a tellement plus que ça. Il y a, tu sais, les hormones, justement, l'environnement, la psychologie, la médication. Fait que, tu sais, nous, on focus sur l'alimentation puis le pourcentage de gras, tu sais. Ça se peut qu'ils suivent, ça se peut qu'ils suivent pas. C'est plus complexe que ça, malheureusement. Fait que tout ça pour te dire que ça fait tellement longtemps que j'ai pas partagé ces données-là, ouais, que je les ai même plus en tête.
Tu sais, il y en a qui ont des belles réussites, là. Je pense à mon amie Sylvie qui est avec moi sur mon Facebook. Elle a perdu 100 livres, être en attente d'une opération, là, la fameuse chirurgie bariatrique. Mm-hmm. Puis ceux qui pensent que la chirurgie bariatrique, c'est magique, puis c'est des lâches qui font ça. Sérieusement, elle a perdu 100 livres avant son opération. Mm-hmm. Moi, j'ai énormément de respect pour Sylvie. Mettez 100 petites livres de beurre un à côté de l'autre. Là.
C'est fou. Hein?
C'est ça qu'elle a réussi à éliminer avant d'aller à son opération. Je trouve ça formidable. Mais pour atteindre ces objectifs-là, il faut vraiment passer par des gens qui sont des professionnels. T'sais, j'imagine que pour ce qui est de la chirurgie bariatrique, il y a des diététiciennes ou des nutritionnistes mm-hmm. qui l'accompagnent. Mais c'est possible de perdre 100 livres. Elle a réussi à le faire en un an pratiquement.
C'est pas possible pour tout le monde. Ça dépend vraiment d'où qu'elle part, de comment qu'elle le fait. Mais c'est sûr que il y a tellement de monde, justement, qui veulent ça, là, la quête de la perte de poids. Mais c'est que c'est multifactoriel. Hein. Comme je viens de vous dire, c'est plus compliqué que juste un déficit calorique. Fait que, tu sais, puis souvent, justement, en nutrition, on va être là aussi pour les aider au niveau, tu sais, comportemental et psychologique. Là.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est bien beau de savoir ce que tu dois mettre dans ton assiette. T'sais, les gens, ils savent là, qu'il faut qu'ils mangent plus de légumes, qu'il faut qu'ils mangent moins transformés. Mais au final, pourquoi tu le fais pas? Tu sais, c'est parce que, justement, tu gères mal ton temps, c'est parce que t'as pas de compétences culinaires, c'est parce que t'as pas d'inspiration, c'est parce que tu sais pas comment le faire. C'est ça aussi qu'il faut travailler, c'est parce que tu manges tes émotions.
Je pense qu'il y a le fait aussi de. Puis, moi, si je me trompe, Vanessa, mais en terminant, je pense qu'il y a le fait aussi qu'on a tendance à penser qu'il y a une solution ou un plan magique pour tous, tandis qu'on a tous nos problèmes individuels, 100%. Notre système individuel, mm-hmm. qui fait que ce qui va marcher pour Yann ne marchera définitivement pas pour moi. Puis
100%.
C'est peut-être là que c'est intéressant, des fois, d'aller consulter, juste pour au moins comprendre de base, toi, ton système marche comment.
Mm-hmm.
Vanessa Daigle, nutritionniste, pour te suivre, on te trouve à quel endroit?
Instagram, Van Baramba. Oui, Van Baramba, nutritionniste.
Mais tu t'en vas sur la route, là, à cette température-là?
Fais attention.
100%, je vais être prudente.
Oui, c'est ça. OK, au plaisir de t'en jaser. Vanessa Daigle, les nutritionnistes. Nous, on fait une courte pause, et 11h06.
Boulevard 102.1.
C'était une belle rencontre avec Vanessa Daigle, nutritionniste. J'ai pris plein de notes. Je t'en rire.
Oh, Seigneur. Je viens d'entendre là, notre promo station vraiment...
Oui.
Qui nous met en valeur.
Qui nous met constamment en valeur.
C'est ça. On a vraiment l'air de du monde crédible.
C'est ça. Si tu penses que t'es performante, là, compte sur tes patrons et sur la production.
Pour le mettre de l'avant.
Pour te dire que finalement, le contrat que tu pensais avoir, ça sera pas ça.
Ah, oh, c'est bon.
Hey, un dossier super important à jaser dans le soleil. Je salue Marie-Christine Bouchard, là, qui est de l'équipe d'enquête, qui travaille extrêmement fort. Elle parle de violence en psychiatrie pour ce qui est des employés qui travaillent en psychiatrie. Puis c'est le cas, encore une fois, de ces infirmières-là qui font un métier pour aider les gens. Finalement, ben, ils se font casser la gueule par les gens qui veulent aider. C'est juste hallucinant. Puis, par l'entremise de son reportage dans Le Soleil, que je vous invite à voir, est-ce que tu savais que les établissements de santé font signer à leurs employés...
Pas des décharges.
Des engagements à la confidentialité, à la sécurité de l'information... qui sont assortis de causes qui exigent d'agir avec loyauté et les employés doivent, par exemple, s'engager à ne pas diffuser auprès des médias et dans les réseaux sociaux tout renseignement qui va à l'encontre des intérêts de l'établissement.
Ah, mon Dieu, mais ça, c'est de même dans tellement de corps de métier.
Que c'est gênant.
Ben quand même. Pense à la DPJ.
Les patrons dans les hôpitaux là, qui obligent les employés à signer ce genre de décharge-là, vous devriez être gêné de faire votre métier.
Je suis tellement
devriez... Le soir, avant de vous coucher, pensez à quel genre de mauvaise personne vous êtes. Je comprends que c'est peut-être des gens qui sont encore plus haut gradés qui vous demandent de faire signer ça à des employés. Mais excusez-moi, là, des filles et des gars qui se font fesser par leurs patients, ça ne devrait pas arriver. On le sait, on manque de personnel dans nos établissements. On le sait qu'on ne peut pas embaucher un agent de sécurité pour chacun des employés. Mais dans des départements de psychiatrie, comme on peut voir dans le reportage de Marie-Christine dans
Mais
Le Soleil...
Mais qu'est-ce qui te fâche exactement?
Ben, techniquement, là, tu sais, moi, je pense que c'est Dr. Berger, là, qu'on avait déjà reçu, je me rappelle pas si c'était à Boulevard ou dans mon ancienne vie radio, mais elle nous avait raconté que pendant qu'elle était enceinte...
Oui, c'est ici.
C'est une urgentologue, c'est ici, hein? C'est une urgentologue, là. Pendant qu'elle était enceinte, puis qu'elle était en train de traiter un patient, le patient, il a soigné un coup de pied dans le ventre.
Oui.
Ça, ça ne devrait jamais arriver. Mm. Jamais, là. Je vous parle pas du meilleur des mondes. Dans la vie, les gens qui aident d'autres personnes ne devraient jamais souffrir des aidés.
Ah, ça, je suis totalement d'accord avec toi. T'sais, c'est malheureux, mais ces documents-là qui sont signés, c'est de même dans tellement d'entreprises. Je veux dire, demain matin, on pourrait pas parler en mal, tu comprends, comme on veut, de Leclerc Communication et qui veut l'entendre. Là. Je pense pas que ce serait... Je pense pas qu'on garderait nos jobs, là. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, je dis pas que c'est correct. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est de même partout.
Ça, c'est la personne qui vient de se plaindre du traitement des producteurs.
Ben, il m'a écrit pour me dire « Est-ce que tu m'aimes encore? » J'ai dit « Une chance, là. » Une chance qu'on
mais,
s'aime.
Mais, excusez-moi, là, mais...
c'est idiot, là.
Dans le système de santé...
Ça devrait
pas arriver. Puis, quand il y a des infirmières qui soulignent à leur patron qu'ils se sentent en danger, puis que les patrons crient ça rien, ben les infirmières se doivent de parler. Puis je les salue en passant, celle qui donne son témoignage dans Le Soleil aujourd'hui. Elle s'appelle Mélanie Champoux. Elle s'est faite casser la gueule par un patient, puis elle a été 18 mois dans le sous-sol chez eux, à la maison, pour essayer de se rétablir, puis elle avait peur de se faire frapper ou de répondre à la porte.
Ça a créé un choc.
Mais son patron, il voulait pas qu'elle parle aux médias, mais tu sais, il avait fait signer un entente, comme quoi, il ne fallait pas qu'elle parle aux médias.
Je pense que c'est la chaîne, moi, qui me tanne. C'est que tu n'en parles pas aux médias, c'est une affaire, mais c'est qu'il faut que tu en parles. Parce que quand on en parle, puis on en discute, puis on en jase tout, des fois, ça mène à des changements. Puis c'est là, mettons, moi, ça me tanne. C'est exact. Que si c'est pas su, comment tu veux qu'on change la donne?
Je n'ai aucun problème à donner les noms des patrons qui sont odieux à l'égard de leurs employés, comme son patron à elle, comme les patrons qui demandent à leurs infirmiers, infirmières, savez-vous quoi, si vous faites fesser à répétition de semaine en semaine, parlez pas aux médias parce que ça va mal faire paraître notre établissement. Jamais que je travaillerai pour des patrons comme ça. Puis si vous pouvez les dénoncer puis qu'on puisse placarder leur face un peu partout à la grandeur du Québec pour démontrer à quel point des fois ces gens-là peuvent être des hypocrites dans le système parce qu'ils savent que ça va mal, mais ils participent à ça. Je trouve ça épouvantable.
Non, mais c'est dégueu. Là. Je suis à la même place que toi là-dessus.
Supposons que moi, je te torture, Audrey. Mais ouais. Je te fais signer un papier comme quoi tu n'as pas le droit de dire que je te torture. Ou si un autre employé dans cette émission-là qui te torture, tu n'as pas le droit de le dire au patron ou tu n'as pas le droit de le dire à tes collègues de travail à l'extérieur ou tu n'as pas le droit d'aller rencontrer d'autres personnes dans les médias. Tu me trouverais comment?
Ben, je te trouverais mardeux, mais j'ai l'impression que c'est systémique. Mardeux. Parce que si elle dit non, elle n'a pas de job.
C'est une bonne question.
Tu sais, fait que j'étais un peu pris, là.
C'est une bonne question. Des lanceurs d'alerte, là, souviens-toi, il y a de ça quelques années à Montréal, il y a un ingénieur qui avait signifié à un journaliste du journal de Montréal, de mémoire, que le pont était très dangereux puis que même lui ne passerait pas sur ce pont-là chaque jour par peur qu'il s'écroule. Et cet ingénieur-là avait été suspendu parce qu'il avait osé jaser avec un journaliste. C'est ça, le Québec de demain, là.
Dire la vérité.
Oui, puis là, finalement, on a passé des ententes sur les lanceurs d'alerte, là. Mais lui, c'est son ordre là, qu'il avait remis à sa place. Puis, de mémoire, il avait été suspendu, là. C'est pas normal, ça, vivre là-dedans.
Mais non, mais t'es pas censé faire taire les gens qui essaient de mettre de l'avant des problèmes qui devraient être réglés. Là, cette dame-là qui s'est fait frapper, là, es-tu de retour au travail? Es-tu encore en arrêt de travail?
D'après moi, elle n'est pas de retour au travail, là. Mais ce qu'elle déclare, c'est que de se faire fesser
c'est pas normal.
Pendant ses corps de travail, c'est pas normal du tout. Puis c'est de plus en plus répandu à la grandeur du Québec.
Quand tu vois, il y a des gens ici qui nous partagent... On parle de ça, mais ils disent qu'il y a toutes sortes d'affaires, là, des agressions sexuelles dans des résidences. Moi, j'avais tenté de faire des entrevues avec des intervenants de la DPJ, surtout quand il y avait l'histoire de la fillette de 7 ans de Granby, là, à savoir, après les recommandations qu'on avait faites, est-ce qu'il y a eu des changements? Puis les intervenants n'ont pas le droit de parler. La seule personne avec qui j'avais eu le droit de parler, c'est une personne qui est en arrêt de travail. Il a fallu que je change sa voix. Il a fallu, tu comprends, que je promette l'anonymat, puis parce qu'ils peuvent perdre leur travail, puis ils peuvent ne pas être recommandés ailleurs après.
Dans des CHSLD du Québec, puis ça, j'en avais entendu parler beaucoup pendant le temps de la pandémie, parce que j'avais été faire un peu de bénévolat, puis il y a des familles qui décidaient de mettre des caméras cachées dans les CHSLD pour surveiller les soins qui étaient donnés à leurs parents.
Ah, moi, je trouve que ces gens-là sont des génies.
Puis l'administration s'était plaint parce qu'ils disaient, mais attendez un peu, là, c'est la vie privée de nos employés. Mais c'était juste pour démontrer à quel point, des fois, que le service pouvait être de la merde, puis les patrons ne voulaient pas. Donc, puis le vol aussi. Ouais. Ta mère se fait voler ses bijoux, là. Elle pue toute sa tête. Fait qu'elle se fait voler ses bijoux, sa montre, de l'argent qui était dans son portefeuille.
Je trouve ça tellement triste parce que ces situations-là salissent la belle job que la majorité des préposés, des infirmiers, infirmières, des gens font dans ces centres-là, tu sais. Toutes ces histoires-là, je veux dire, ça salit la réputation, là. Mais c'est parce que ça existe.
Ah oui, ça existe. Donc, dossier enquête dans le soleil, violence en psychiatrie, une ex-infirmière brise l'omerta. Puis là, on parle du département de psychiatrie, mais si on parle du département des urgences, il y a énormément d'employés là, qui sont victimes à chaque semaine qui pourraient nous jaser grandement. Je sais pas ce que Christian Dubé pourrait dire par rapport à ça.
Bien, moi, je suis curieuse, si vous êtes dans ce domaine-là puis vous avez des histoires 88-971-1021, tu sais, peut-être que ça vaudrait la peine de parler avec quelqu'un qui n'a pas peur justement de peut-être perdre sa job ou qui vient de prendre sa retraite ou qui a des choses à dire, je serais curieuse.
En même temps, on pourrait leur offrir l'anonymat.
Oui, hein? On pourrait leur offrir l'anonymat.
Je t'assure de passer une belle journée. On t'écoute à 14h avec Denis.
Yes!
Et faire la circulation.
Oui.
Comme toi seul, c'est le faire.
Je vais essayer de faire mieux.
Et unique.
Salut, là.
Pascal CV, ça revient dans le show dans les prochaines secondes. D'ici là, c'est Malajube qui nous accompagne avec Radiologie.